Bonjour, bonjour Ivantina, ici Roger Malina. On va un peu discuter avec vous le travail que vous êtes en train de faire autour de art, biologie et théâtre. Donc présentez-vous peut-être rapidement et vos travaux.
Je m'appelle donc Ivantina, bonjour Roger. Je suis étudiant doctorant à l'université d'Aix-Marseille en Provence, en France. Et je suis en co-tutelle de thèse avec l'université du Texas à Dallas. Mon projet de thèse concerne les métamorphoses de l'art à l'épreuve des sciences et des technologies, et notamment dans les formes scéniques, que ce soit au théâtre, dans la danse, et plus généralement, en fait, dans les arts de la performance.
Bon, donc si j'ai compris, en effet, le théâtre, ça a toujours été le spectacle vivant,
Oui.
puisque le vivant est en train d'être redéfini et d'évoluer, comment le théâtre va intégrer cela? Donc je crois que vous venez de présenter vos travaux à une conférence internationale qui s'appelle la Société Littérature, Sciences et Arts à Turin. Peut-être vous pouvez nous exposer rapidement ce que vous avez présenté.
Ah d'accord. Oui, donc j'avais été invité à participer à cette conférence qui portait sur la définition de la vie aujourd'hui en théorie, telle qu'elle est abordée par l'ingénierie du vivant en réalité. Et mon intervention portait sur ce que j'appellerais des théâtres artificiels et biologiques, c'est-à-dire précisément la possibilité aujourd'hui de renouveler l'esthétique théâtrale par l'usage en fait de la matière vivante telle qu'elle est pratiquée dans les formes du bio-art ou même de la vie artificielle.
Bon, peut-être, pour être un peu plus précis, pouvez-vous nous donner un exemple du type de travail qui se fait en ce moment au théâtre, qui prend en compte
Ouais.
en effet cette idée de l'évolution du concept du vivant?
Je dirais que c'est un domaine qui est encore en friche, mais il y a beaucoup de gestes de créateurs. Je pense en France au travail de Jean-François Perret, qui est un dramaturge et metteur en scène reconnu pour ses collaborations avec de nombreux scientifiques, avec Alain Prochain notamment depuis une dizaine d'années. Le travail que mène Perret en France est très intéressant, mais à l'étranger, il y a aussi
Attendez, sur Perret, sa démarche, c'est quoi exactement?
Jean-François Perret, alors depuis une vingtaine d'années, élabore des traités qui portent sur le rapport que le vivant, sur les rapports entre guillemets, sur les rapports dialectiques que le vivant entretient avec l'artificiel, entre le mécanique plutôt et le vivant. Et donc après le traité des formes et le traité des couleurs, Jean-François Perret mène depuis 10 ans un travail qui justement interroge la technologie et la manière dont le théâtre se sert des outils de son époque.
Et ça se traduit exactement comment sur scène?
Sur scène, ça peut se traduire par l'utilisation d'avatars, ça peut se traduire par le prolongement des spectacles dans des espaces virtuels comme sur Second Life. Je pense par exemple au Walden, qui est un travail de Jean-François Perret qui a évolué sur 3 ans et qui a pris des formes diverses, qui a d'abord pris une forme, comment dire, de chantier où les acteurs et travaillait avec la matière textuelle qui leur était apportée et la faisait évoluer. Donc là-dessus, Jean-François Perret jouait avec la mémoire des comédiens. Mémoire, c'est-à-dire aussi qui fait intervenir quelque part une sorte de processus biologique. Mais ce travail a ensuite évolué vers une forme qui est plus proche de la forme de l'installation. Toujours en dialogue permanent avec les environnements numériques et virtuels qui nous entourent, jusqu'à la dernière création de l'année dernière au Festival d'Avignon, où vraiment là, du coup, c'était une forme beaucoup plus théâtrale auquel les spectateurs ont pu que les spectateurs ont pu découvrir. Donc, le travail de
Bon, et attendez, peut-être vous pouvez un peu expliquer de façon claire, c'est quoi la vie artificielle et la vie dans le virtuel?
Alors, la vie artificielle, je ne suis pas expert en vie artificielle, mais je crois pouvoir dire que la vie artificielle, c'est la possibilité de créer de la vie à partir du silicium et non à partir du carbone comme nous la connaissons dans notre environnement quotidien. Et la différence avec les environnements virtuels, c'est précisément justement repose justement sur la matière qui est utilisée dans les processus de création ou de simulation de vie artificielle. Les environnements numériques et virtuels sont des environnements d'immersion en trois dimensions qui sont reproduits à l'intérieur des logiciels informatiques ou grâce à des logiciels informatiques, mais à l'intérieur de plateformes virtuelles, alors que la vie artificielle, elle, expérimente plus les processus, tend plutôt à faire émerger les propriétés de la vie telles que nous pouvons les connaître, c'est-à-dire comme forme autonome, autoproductrice.
Alors là aussi, vous pouvez donner un exemple peut-être précis de travail en vie artificielle. Ça se déjoue comment? Ça se montre comment?
Je pense notamment au travail de Carl Sims avec les Galapagos ou aussi les créatures de Tom Ray, qui se montrent sous forme, en général dans des expositions, sous forme interactive, où les visiteurs peuvent dialoguer en quelque sorte, interagir avec ces formes évolutives qui sont à la fois immatérielles et vivantes.
D'accord. Alors l'autre pendant, c'est en effet que la vie sur Terre est basée sur le carbone, donc la vie que nous connaissons.
Oui.
Mais là aussi, il y a des développements scientifiques qui sont en train de pousser la définition du vivant, telle que la biologie synthétique et d'autres démarches de génie génétique. Peut-être là aussi, pouvez-vous nous donner un exemple de travail art et biologie synthétique aujourd'hui, ou commencer par définir la biologie synthétique.
Je dirais que la biologie synthétique, c'est un domaine scientifique aujourd'hui qui tend à appliquer les propriétés de la vie à des objets créés justement par les sciences. C'est-à-dire, pour donner un exemple en fait plus concret, lorsque vous parlez de la vie telle qu'on la connaît et de la vie telle qu'elle est, j'ai assisté à Turin à une conférence sur l'astrobiologie. C'est-à-dire la vie telle qu'elle pourrait exister en dehors du système solaire. On voit bien là qu'avec la préoccupation de Christopher Langton que vous avez cité, qui est donc d'explorer la vie telle qu'elle pourrait être et non telle que nous la connaissons, on voit bien là qu'il y a un rapprochement qui peut être fait avec un domaine aussi éloigné que l'astrobiologie, qui elle aussi justement cherche à comprendre comment la vie pourrait être dans d'autres hémisphères que le nôtre. Et c'est à cet endroit-là, c'est cet endroit-là aussi qui m'intéresse, là où la vie artificielle telle qu'on peut la simuler à partir de propriétés, à partir du silicium, comment elle peut rejoindre des disciplines aussi éloignées que l'astrobiologie ou encore les pratiques artistiques, quoi.
Bon, très bien. Alors, je sais qu'aussi vous avez monté un site web qui s'appelle MetaLife. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on peut trouver sur ce site web et le travail que vous explorez.
MetaLife, en fait, est un site web qui va accompagner la publication d'un e-book publié par MIT Press, un e-book de Leonardo publié par MIT Press. Et les visiteurs auront l'opportunité d'approfondir leurs connaissances de la vie artificielle et justement de la biologie de synthèse et des biotechnologies en général, et des artistes qui recourent aux biotechnologies sur ce site web qui donc accompagne la publication de ce e-book. Ce site web est composé de différentes sections, d'une bibliographie pour aller plus loin dans la lecture, d'une terminologie pour se familiariser peut-être avec les concepts parfois un peu techniques et scientifiques qui sont employés dans les discours des sciences du vivant en général, et d'une dernière section à venir qui va être une section de là où les visiteurs pourront retrouver des conférences, notamment celle de Turin et celle qui a eu lieu à Paris en mars 2014 avec Leonardo Olat sur le thème du biodesign. Donc c'est un site qui a pour but d'accompagner le lecteur dans sa volonté d'approfondir sa connaissance sur ces différents sujets.
Très bien. Alors, pour revenir au théâtre et au spectacle vivant, peut-être vous pouvez nous indiquer les pistes que vous espérez suivre dans les années qui viennent et quel développement vous attendez dans le spectacle vivant et le théâtre.
Alors, comme je disais tout à l'heure, il me semble que les possibilités ouvertes par des domaines comme la vie artificielle ou la biologie de synthèse ouvrent en fait la boîte de Pandore et peuvent être la matière d'un renouvellement de l'esthétique théâtrale, dès lors vraiment qui se sert de matière vivante. Aujourd'hui, dans mon travail, ce qui m'intéresse, ce serait justement d'explorer ce potentiel dramaturgique qui se donne au théâtre à travers les sciences du vivant et les biotechnologies. Et je suis en train en ce moment de m'intéresser peut-être à... Il y a plusieurs choses qui m'intéressent. La première, c'est précisément ce que le philosophe Adorno appelait l'effrangement, c'est-à-dire l'hybridation du théâtre au contact des autres arts. Et j'observe en ce moment que le théâtre se déplace de plus en plus vers des formes qui relèvent plus de la performance ou même voire de la forme de l'installation plus précisément. Et ça, c'est le premier mouvement qui m'intéresse. Le second concerne précisément les dramaturgies dont je viens de parler, la manière dont on pourrait réinventer, par exemple, l'art de la marionnette avec des entités et des créatures créées artificiellement, dont le but serait justement de remplacer les marionnettes, les figures traditionnelles de marionnettes telles que nous les connaissons, et peut-être d'inventer une sur-marionnette telle qu'elle avait été imaginée par Gordon Craig il y a quelques années. Mais aussi, par exemple, ça pourrait concerner les notions de performativité. À quelle échelle peut-on, comment valide-t-on des concepts aussi grands que ceux de théâtralité et de performativité lorsqu'ils s'appliquent à des objets vivants concrets?
Très bien, écoutez, Yvan, peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un jeune metteur en scène ou dramaturge qui, il vous semble, fait du travail intéressant dans ces directions?
Aujourd'hui, il y a le travail de Lucy Strecker, qui est une Allemande, je crois, qui travaille qui travaille en collaboration avec Klaus Pisch, qui développe un travail que l'on qualifie de théâtre moléculaire. Ça, c'est une piste que je trouve intéressante de suivre. Mais il y a aussi le travail de Joe Davis, par exemple, qui avec Bacterial Radio créait...
Alors lui, il n'est pas jeune, par contre.
Oui, il n'est pas jeune. Mais c'est comme c'est un
pouvez
domaine...
Pouvez-vous citer quelqu'un de moins de 35 ans?
Ah, c'est pas simple, parce que c'est un domaine tout neuf et qui n'est pas encore connu de la plupart des spectateurs de théâtre.
Bah, écoute, peut-être nos auditeurs auront des exemples et on les encourage à nous contacter avec des liens vers leur site web et leur travail théâtral qui implique le vivant. Alors, merci Yvan Tina, on va s'arrêter là.
D'accord.
C'est un début d'une discussion, bien sûr, et j'espère que sur Creative Disturbance, on pourra avoir une chaîne qui explore ces questions.
Merci de m'avoir donné la parole.
Pardon ?
Je dis merci beaucoup de m'avoir donné la parole et d'avoir pu introduire ces différentes...
Ok, très bien. Thank you very much.
Merci beaucoup.